Vous retrouvez le grand débat présenté par Louis Dauphren.
Ce vendredi est le dernier jour de campagne avant le premier tour de la présidentielle. Je le précise pour ceux qui écouteront le débat demain samedi. Ce sera donc hors champ, évidemment, du décompte électoral. Donc on va faire attention quand même à ce que vous allez dire pour ne pas influencer l'opinion alors que la loi nous oblige à rester distant. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir évidemment des propos qui sont les vôtres. Et j'y compte bien que vous soyez évidemment le plus éclairant possible pour notre public qui nous écoute, qui est peut-être très indécis encore, puisque c'est la perplexité qui domine ce premier tour de la présidentielle. On en parlera en seconde partie de Grand Débat. On va parler de l'Ukraine dans la première partie. S'achemine-t-on vers une affiche, la même affiche qu'il y a 5 ans pour la présidentielle, et puis vers l'Ukraine? Est-ce qu'on s'achemine vers un enlisement, un bourbier, une situation qui va continuer à s'aggraver avec des signaux qui ne sont pas forcément très favorables, qui sont envoyés aujourd'hui ou dans les heures qui ont précédé? Vous avez peut-être entendu Dimitri Peskov parler des lourdes pertes de la Russie, en tout cas acquiescer au fait que la Russie aurait pu subir de lourdes pertes en Ukraine, et puis des sanctions qui continuent, qui sont prononcées par les États-Unis, l'exclusion par exemple d'un point de vue commercial de la clause de la nation civilisée qui exclut davantage encore la Russie du commerce mondial. Donc les choses continuent dans le même sens, si on peut dire. Alors pour commenter tout cela, Jean-Christophe Buisson, directeur de la rédaction adjoint du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Jean-François Coulon-Désart, écrivain et journaliste. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et Philippe Clancher, qui est journaliste, notamment à Nouvelle Cité, Réforme, Témoignage Chrétien. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors on va essayer de décrypter un petit peu tout cela. Peut-être voulais-je commencer par les images qui se sont imposées aux yeux de tous ceux qui ont pu les subir d'une certaine façon. Hein. C'est bien sûr le massacre de Boutcha. Et puis, il y a d'autres noms qui sont cités, qui sortent. Hein. C'est Volodymyr Zelensky qui a parlé de la situation à Borodyanka, une localité au nord-ouest de Kiev, récemment reprise par les Ukrainiens aux Russes, qui est bien plus horrible qu'à Boutcha, nous a-t-il dit, où des civils ont été massacrés. Comment interpréter ces images? Les images parlent-elles d'elles-mêmes? Alors, il ne s'agit pas d'émettre je ne sais quel doute ou quelle dénégation, mais d'essayer d'éclairer le jugement. Jean-Christophe.
Alors pour être très franc, comme j'ai beaucoup couvert le conflit en ex-Yougoslavie dans les années 90, les premières images que j'ai vues de Boutcha m'ont laissé un peu circonspect. Pour une raison très simple, c'est que j'ai en mémoire ce qui s'est passé à Ratchak en mars 1999. Et je voyais que le même mécanisme était à l'œuvre. À Ratchak, c'était un petit village où on a découvert un charnier de plusieurs paysans kosovars albanais abattu d'une balle dans la tête. Il se trouve que parmi les premiers arrivés sur la scène, donc on a vu ces images ont déclenché vraiment un mouvement d'horreur tout à fait légitime qui a poussé les Américains notamment à décider de bombarder la Yougoslavie, et c'est le début de la guerre du Kosovo, etc. Il se trouve que Renaud Girard, grand reporter au Figaro, à l'époque est arrivé à Ratchak et s'est rendu compte que les corps étaient des corps de combattants de l'Ucheka, du mouvement qui avait été tué au combat.
Indépendantiste albanais.
Voilà, qu'on avait déshabillé et rhabillé en paysan et abattu post-mortem d'une balle dans la tête pour donner l'impression qu'effectivement il y a eu un massacre de civils. Donc il y a eu quand même des grandes conséquences. Donc le premier réflexe, je me suis dit, comme il y a très peu d'images avérées de combat en Ukraine, puisque c'est très contrôlé par l'armée ukrainienne pour une raison qui est tout à fait légitime, qu'ils ont peur des informations données aux Russes, etc. Donc il n'y a pas d'image. Donc j'étais très méfiant.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de journalistes embarqués avec l'armée.
Alors les journalistes arrivent aussi.
Voilà, pareil du côté russe.
Exactement. Donc les journalistes arrivent. Et donc qu'est-ce qui s'est passé à Boutcha? Les Russes disent qu'ils sont partis le 30-31 mars, on découvre le massacre le 3 ou le 4 avril. Donc il s'est passé 3 jours, ce qui est normal dans des zones de combat que vous connaissez. Quand il y a des combats, qu'une armée s'en va, il y a les combattants de notre armée qui arrivent, qui déminent, pour que les journalistes puissent arriver sans danger, puisque les armées ont pour mission de protéger les journalistes en fournissant des gilets pare-balles, des casques, etc. Donc je me suis dit, il y a eu ce laps de temps, donc il peut y avoir une mise en scène. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de morts et de civils tués, sauf qu'ils n'ont peut-être pas été tués de cette manière-là. Sauf que, d'abord l'ampleur, Ratchak c'était je crois une quinzaine de personnes, là on est à 300-400, l'ampleur, le fait qu'il y ait d'autres endroits comme Irpin et puis un nouvel endroit, donne l'impression que c'est difficilement une mise en scène, parce qu'on ne met pas en scène des centaines et des centaines de corps comme ça. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que encore une fois, qu'il n'y a pas une communication de la part des Ukrainiens, mais là il est vraiment impossible à mon sens. Et donc on a passé vraiment une étape dans une escalade dans l'horreur de ce qu'on voit.
Je vais tous vous poser la question, mais votre flair vous dit, votre flair journalistique, Jean-Christophe, vous dit plutôt intox ou
non? Non,
ou
non. Je dis réalité justement parce que je viens d'expliquer. Il y a peut-être une part d'intox, mais à ce point-là, c'est impossible de mettre en scène dans cette ampleur-là des massacres qui n'est pas venu.
Il faut se souvenir de Jean-Christophe Hara. En Roumanie, c'était en décembre 89, lorsque tous ces corps sont sortis du cimetière, et ça a été une sorte de déclencheur d'émotion mondiale. En fait, soi-disant la sécurité, c'est-à-dire les services secrets de Ceausescu, les avait abattus, ça s'est révélé totalement faux, c'était des corps qui étaient enterrés depuis un an, etc. Mais ça a déferlé sur les chaînes de télé. Donc pour rejoindre Jean-Christophe, oui, il y a eu massacre, c'est sûr. Qui a tué ces pauvres gens, j'en sais rien. Donc la guerre, en tout cas de l'information, dans cette guerre ukrainienne, est plus intense que la guerre sur le terrain. Et puis, c'est une des premières fois où je suis désolé, mais on ne va pas sur... Il y a beaucoup de journalistes, mais on arrive post-mortem, on arrive après. On ne va pas sur le terrain de conflit. Et c'est une des premières. On était sur tous les terrains de conflit des événements précédents, à commencer, bien sûr, par la guerre que les Américains ont menée en Corée. On était en première ligne.
Là, on remarquait la guerre du Golfe en 91.
La guerre du Golfe, on y était aussi. Ah, si, on y était aussi.
Non, non, il y avait mais c'était quand même très encadré.
Etc. Oui, mais que ça soit encadré, d'accord, mais il faut qu'on aille voir. Sinon, on ne sait pas. On est un peu à l'aveugle.
Philippe Clancher.
Oui, moi, je voudrais voir l'émotion que ça peut faire, vu de chez nous, qui, pour la plupart, alors là, mes deux collègues ont une expérience de terrain de guerre, mais la plupart de la population, nous ne connaissons pas. Et je suis étonné de l'étonnement de la population française devant ces événements, devant ces charniers des massacres. Comme si on est surpris que des mouvements de guerre nous fassent découvrir ces réalités terribles. Peut-être que la semaine dernière, il y avait un léger petit moment d'espoir en se disant « Ah, les Russes reculent, ils abandonnent des positions, peut-être que ça allait mieux », sans oublier qu'on allait découvrir les horreurs d'une armée, de toutes les armées qui battent en retraite, qui sont vexées, qui sont frustrées. Alors tout le monde nous dit que l'armée russe, en plus, la formation à l'éthique, c'est pas trop la spécialité de la maison, et donc ils font des horreurs et tout ça. Je crois qu'on s'était pas mis dans l'idée que une des conséquences de la guerre, c'était pas simplement des bombardements qui venaient de très loin dans les villes, mais ces petits faits comme ça. Alors on n'arrive pas à s'imaginer les conséquences de la guerre, et peut-être que c'est à mettre en lien avec le fait qu'on n'imaginait pas la guerre et que globalement l'Europe a fait la sourde oreille sur la menace poutinienne, et ça nous ramène au tout premier jour où on a pensé que les Américains étaient défaitistes et qu'il fallait pas écouter les Américains parce qu'ils criaient au loup et tout ça, et qu'on n'a pas vu. Je crois qu'il y a un problème en Occident, on n'arrive pas à s'imaginer ce que c'est que la guerre, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on ne la veut pas, parce qu'on trouve que c'est sale, que c'est pas beau, du coup on n'arrive pas à imaginer, et normalement...
Ça produit un effet sur les opinions publiques.
Oui, mais on aurait dû se préparer à s'attendre à voir ces images de villages martyrs, puisque c'est des choses qu'on a connues dans toutes les guerres.
Ça fait penser
dans
à Ordou.
Jean-François a raison. Il y a une partie sans doute de manipulation, de maîtrise de la communication, puisque l'Ukraine maîtrise remarquablement la communication. C'est la première fois sans doute qu'on a un pays qui est à la fois agressé et qui en prend plein la figure, et qui en même temps maîtrise si bien la communication. Mais pour autant, on sait qu'il y a des horreurs, et que globalement, jusqu'à preuve du contraire, les exactions viennent du côté russe sur la population ukrainienne.
Des exactions de ce type, on n'y était pas préparé. Là, je rejoins sur l'idée qu'on n'aime pas la guerre, qu'on ne la fait plus, qu'on n'a plus la perspective de l'affaire, et qu'on est d'autant plus effrayé. Mais on a bien vu ce que l'armée russe pouvait faire en Tchétchénie, qui... Sauf qu'il n'y avait pas ce type de massacre. Donc la raison, c'est pourquoi on en arrive à ce type de massacre. Et je crois que la raison, ce qu'on n'a pas compris, c'est la Russie de la propagande russe, poutinienne en Russie ces dernières années. Et je me mets dans l'eau, parce que je suis allé très souvent en Russie, et je n'ai pas mesuré l'ampleur. L'ampleur, c'est quoi? C'est qu'on a réussi à convaincre la population russe qu'en face, ce sont des nazis. En face, ce sont des nazis. Et avec les nazis, on se comporte comme on s'est comporté en 1945, comme l'armée rouge s'est comportée en Allemagne en 1945, on avait le droit de tout faire sur les Allemands puisque c'était des nazis. Quand vous avez des gamins de 20 ans qui ont ça dans la tête, qui viennent de Khabarovsk, puisque manifestement, ceux qui ont commis ces exactions...
La 64e division motorisée.
Exactement, qui vient de fin fond de la Sibérie, ils sont arrivés avec dans la tête, on a en face de nous des nazis. Des nazis, on en fait ce qu'ils méritent. C'est ça qu'on n'a pas mesuré. Je ne dis pas que ça justifie, loin s'en faut, ce qui s'est passé, mais peut-être que c'est une clé de compréhension de cette horreur, parce que l'armée russe peut tout à fait bombarder des villes, raser des villes, tuer des combattants, mais ce type d'exaction, à ce point-là, cette barbarie qui rappelle effectivement celle des nazis, pour le coup, a quelque chose de mystérieux, d'énigmatique, et qui, à mon avis, provient du fait qu'on n'a pas compris l'ampleur de cette propagande ces derniers mois.
C'est pas les Tchétchènes de Kadyrov qui sont à l'œuvre là.
Je crois qu'il y a très peu de Tchétchènes en fait. Ils font beaucoup de communication, ils les mettent beaucoup en scène pour faire peur.
On parle de Wagner pas mal. Hein. Mm. On dit que les gens de Wagner là, ont encore moins de sentiments. Ouais.
Mais ce qui est intéressant dans cette armée russe, c'est que d'après ce que les Américains nous ont appris par leurs photos satellites, etc., c'est qu'ils auraient perdu 10 000 hommes en un mois. C'est-à-dire qu'ils ont perdu autant d'hommes que lorsqu'ils sont restés 10 ans en Afghanistan. Donc l'armée russe, soi-disant une des armées les plus fortes du monde, un peu comme celle de Saddam Hussein dans les années 91, qui était soi-disant la quatrième armée du monde. Ça s'est réglé en 15 jours. Et là, Poutine pensait vraiment que les Ukrainiens allaient piller le genou très très vite, que ça allait être une blitzkrieg, c'est le cas de le dire. Ils sont très embêtés maintenant, j'ai l'impression.
Ouais, mais alors je crois que d'abord l'armée ukrainienne n'est pas seule. Oui. Et dès avant la guerre, elle est équipée, armée, formée, notamment par les Américains.
Ils sont des très bons combattants, les Ukrainiens.
Absolument. Ils l'ont prouvé à de maintes reprises. Par ailleurs, il y a des forces spéciales de pays occidentaux qui participent au conflit de manière
française ou officieuse. Pas
Jean-Christophe, je n'en serais pas étonné. En tout cas, voir autant de généraux et d'officiers très supérieurs tués sur le front, il faut des gens très aguerris pour tuer des généraux sur le front. Et il y en a eu beaucoup. Donc il y a à la fois cette armée ukrainienne qui était beaucoup plus forte qu'on ne le prévoyait, pour les raisons
que le croyait Poutine.
Et que le croyait Poutine. Et une armée russe, effectivement, qui est faite, notamment ce qu'on en a compris, parce qu'on a récupéré des communications, une désorganisation dans le commandement entre les forces aériennes et les forces terrestres, par exemple. On a surpris des conversations, c'est les services français qui ont récupéré ça. C'est incroyable.
C'est très étonnant.
Des engueulants entre officiers en disant mais où est la logistique, avec des chars qui restent en panne, qui tombent dans des embuscades. Il n'y a pas du tout de coordination. D'ailleurs, Poutine a commencé à virer deux, trois généraux. Donc elle était mal préparée, elle est mal organisée, elle est mal coordonnée. Et en face, vous avez une armée qui est supérieure, parce que bien aidé, bien équipé, bien armé par des pays étrangers, d'où ce conflit qui effectivement s'enlise et qui fait beaucoup de victimes côté russe.
C'est très étonnant que les Russes se laissent capter leur propre communication alors qu'ils sont quand même extrêmement aiguisés, affûtés sur ce terrain de la technologie de pointe quand même.
C'est ce qu'on croyait, mais on s'est trompé.
Donc ça veut dire que sur le renseignement et sur la préparation de ce conflit, non seulement l'Occident s'est trompé en pensant que Poutine n'irait pas plus loin que se contenter de faire des petits trucs dans le Donbass et puis après la Crimée, et les services se sont trompés aussi sur la compétence de Poutine et ont vu comme quelqu'un qui allait gagner très facilement. Donc ça pose des questions quand même sur la façon dont on se renseigne sur nos ennemis. Moi, c'est quand même assez inquiétant, et c'est pas simplement en acceptant la démission du général responsable du renseignement que ça va se régler. Pourquoi on comprend si mal ce que vous disiez, Jean-Christophe, la société russe, pourquoi on n'est pas au courant, pourquoi on ne sait pas que cette armée c'est un espèce de mythe de puissance, alors que moi naïvement je pensais comme beaucoup de gens que en 8 jours Kiev allait tomber, que le gouvernement de Zelensky allait être destitué, que lui-même risquait de ne pas passer chaque journée d'une semaine. C'est très étonnant. Et on a l'impression d'aller de surprise en surprise. Or, à la guerre, quand on va de surprise en surprise, c'est pas très bon.
Il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est Zelensky. Parce que tout le monde pariait, à commencer par Poutine, évidemment, que le fait que l'armée arrive, Zelensky, qui n'a pas une formation, encore moins, certes pas de guerrier et à peine de politique, allait partir en courant. Et le fait qu'il soit resté a galvanisé d'une certaine manière l'Ukraine, parce qu'il a incarné la résistance. Et Poutine avait parié sur le fait qu'effectivement, ils allaient prendre l'aéroport en quelques heures, s'installer, le tuer ou l'écarter, mettre un gouvernement fantoche à la place. Et pendant ce temps, les chars arrivaient à Kiev 3 jours après. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que c'est pour ça qu'il faut saluer, même s'il y a de la communication, même s'il est aidé, etc. Il est resté, il a enfilé un treillis, il a dit maintenant je suis le chef de la résistance. Et ça rappelle effectivement.
Et il est vraiment à Kiev?
Ah oui,
avec le maire de Kiev.
Avec le maire, avec Klitschko, etc. Oui. Absolument. Il y a eu comme ça. Comme quoi, c'est des hommes à la fin qui font la guerre. Des hommes, des chefs qui se révèlent dans des circonstances exceptionnelles. On a vu ça en France. Ça nous est arrivé, Dieu soit loué, que d'un seul coup, des gens qui sont des officiers ou des politiques qui n'ont pas forcément une envergure qu'on croit aussi importante, eh bien, prennent la mesure des événements et se révèlent à eux-mêmes, se révèlent à leur peuple et incarnent une résistance qui pousse les gens à continuer à résister. Il faut pas minimiser, effectivement, même si je trouve qu'on en fait parfois un peu trop sur Zelensky, mais quand même, c'était inattendu qu'il se révèle à ce moment-là.
Alors, s'il se révèle politique, dans les négociations qui ont lieu avec les Russes en ce moment, qui c'est un pas en avant, un pas en arrière, quoi, c'est une espèce de tango bizarre. Pour sortir de cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait peut-être que Zelensky abandonne la Crimée définitivement et reconnaisse que la Crimée fait partie du territoire russe. C'est peut-être une des clés de la sortie avec le Donbass, parce que les Russes ne vont pas lâcher le Donbass, mais on pourrait imaginer qu'il y ait un référendum dans les années qui viennent en Donbass. Voulez-vous être russe ou ukrainien ?
Au départ, etc. C'était quand même la question. Le référendum d'autodétermination,
ça, voilà.
Et la solution au départ, si on lit les accords de Minsk, c'est la solution à l'Ukrainien. C'est-à-dire la Russie reste à l'extérieur et ce sont République du Donbass d'avoir un référendum d'autonomie, pas d'indépendance d'ailleurs. Sa solution aurait dû être rester à l'intérieur de l'Ukraine.
Comment sortir de cette situation ?
Ça veut dire de revenir en fait aux accords de Minsk. Vous pensez, Jean-Christophe Buisson ?
Honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que le Zelensky a refusé cette fédéralisation demandée par les russophones et a vraiment laissé passer des lois qui entravaient la possibilité des russophones du Donbass de parler russe, etc. Et je crois que là-dessus, il est capable de tout à fait de reculer, parce qu'il y a quand même une réalité de terrain, même s'ils sont en train de repousser les Russes, c'est épouvantable ce qui se passe en Russie. Le pays est rasé, le pays est parti 40 ans en arrière, et à un moment donné...
En Ukraine, pardon.
Ouais. La souffrance est telle qu'il ne peut pas continuer, et s'il faut sacrifier la Crimée et peut-être le Donbass, je pense que c'est envisagé dans les négociations. C'est pour ça que les Russes, à un moment donné, ont cru que c'était un peu bien avancé. Alors après, il a aussi le poids de l'Europe, des États-Unis, qui peut-être aussi le pousse à refuser certaines concessions qu'il était prêt à faire pour sauver des vies ukrainiennes qui disparaissent chaque jour. Mais malheureusement, on n'est pas dans le secret des négociations.
Par un vote du Congrès, les États-Unis ont officiellement révoqué donc le statut commercial de la Russie et du Bélarus en réponse donc à la guerre en Ukraine. Ça veut dire que la Russie perd sa clause de la nation la plus favorisée, un principe de réciprocité de base dans le libre-échange. Ça veut dire que le mouvement que l'on connaît qui a été engagé continue, et l'isolement aujourd'hui de la Russie est accentué par des mesures qui vont toujours évidemment dans le même sens. Est-ce que pour une sortie de crise, est-ce qu'il n'y a pas le moyen de donner quelque chose à Vladimir Poutine pour qu'il arrive à cette table de négociation quand même avec quelque chose dans sa besace à négocier ?
Les sanctions économiques, on parle que de ça depuis un mois, à part faire exploser le prix du gaz, le prix de l'énergie, le prix de l'essence, etc. Je vois pas bien...
Ça se retourne plutôt contre nous, en règle générale, non ?
Bien sûr, ça se retourne
contre nous.
Oui. Contre le peuple russe aussi, et puis surtout, ça a montré notre non-préparation. Que les Allemands soient dépendants à 40% du gaz russe avec ce deuxième gazoduc qui est construit, etc., c'est totalement grotesque. Que les Allemands aient supprimé le nucléaire, ça c'est Madame Merkel, c'est une stupidité... faire plaisir aux verts, maintenant ils en payent le prix, et puis le prix va être cher, etc., etc., etc. Donc ces sanctions économiques, il faut beaucoup de temps pour que ça fasse son effet. Et entre-temps, il y aura beaucoup de malheureux, on va
et
dire.
Et surtout, il faut arrêter de croire que la Russie ne fait de l'économie qu'avec nous, parce que la Russie fait aussi l'économie avec la Chine, avec le Brésil, avec autant de pays qui n'ont pas...
Grâce aux Américains, on va pousser les Russes dans les bras des Chinois, hein, ce qu'il faut absolument éviter.
Oui, ça, je pense que c'est déjà fait de toute façon, la diplomatie va dans ce sens-là. Oui, toutes ces décisions, cette escalade que les Américains, mais aussi les Européens, montrent comme preuve de leur bonne volonté, ça, concrètement, ça ne sauve pas de vie. Ça n'empêche pas les bombardements, ça n'empêche pas que des villes soient rasées et tout ça. Donc, il faut, en tous les cas, il faut surtout pas que l'Occident s'en tire à bon compte en disant « on a fait tout ce qu'on a pu ». L'erreur, elle était avant dans l'impréparation, dans le fait que Poutine regarde si quelqu'un en face de lui est fort ou est faible, et que, globalement, l'Europe s'est montrée faible et pas préparée. Et la tradition européenne et même américaine, c'est de travailler sur du long terme dans la diplomatie. Or, c'est pas les lois de la guerre. On a refusé les lois de la guerre qui sont « on prépare et on fait très vite avec les moyens qu'on a ». Et ça, c'est un échec initial du début et qu'on aura beaucoup de mal à rattraper.
Quand vous pensez que l'armée russe a tiré, je crois, c'est en une nuit, je ne veux pas dire de bêtises, ce que l'armée française tire en un an à l'entraînement. Que si nous étions dans une guerre conventionnelle, nous avons 3 jours de munitions. que les balles françaises n'étaient plus faites en France. On les achetait à l'étranger.
Alors qu'il y avait de très bons armuriers en France.
Il y avait de très bons armuriers. Ça pose peut-être... Alors ça nous a mis le doigt là où ça fait très mal. Depuis 30 ans, les hommes politiques de droite comme de gauche ont tapé sur l'armée, on a descendu les effectifs, on a descendu les armements, les achats de chars, d'avions, etc. Voilà où on en est. Je veux dire, maintenant, tout le monde...
Vous constatez que tous les pays européens, si on prend la Bulgarie, je ne les ai pas en tête tous, mais achètent du matériel militaire américain. En tout cas, pour les Américains, c'est...
L'Europe de la défense, arrêtons les bêtises. Les Allemands qui mettent 100 milliards, ça y est, ils se rendent compte qu'il faut quand même...
Les Allemands achètent
des F-16 américains. Alors, l'Europe de la défense, arrêtons. Hein, je veux dire, soyons... Pourtant, l'Europe, ça marche. Ça peut marcher sur des programmes à forte densité comme Airbus. Airbus, on est parti d'une feuille blanche et on a fini par tacler Boeing, tacler les Américains. Ça marche avec Ariane, ça va peut-être marcher avec les batteries qu'on installe pour les voitures, parce que pour l'instant on est dépendant complètement de l'Asie. Donc ça pourrait marcher, on peut imaginer ça. Mais bon, il y a encore du chemin à faire. Hein.
Côté médiation, Viktor Orban qui a été réélu triomphalement propose une médiation avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça peut fonctionner, Jean-Christophe Buisson?
Étant donné le comportement de la Commission européenne vis-à-vis de Orban, qui deux jours après avoir été élu est puni et sanctionné, c'est quand même ahurissant. Moi, je n'arrive pas à accepter que des instances non élues sanctionnent des gens qui ont été élus. Ça me sidère, que ce soit Orban ou d'autres, qu'on décide de sanctionner quelqu'un qui vient d'être élu pour la quatrième fois dans son pays, quasiment triomphalement, et on le sanctionne, alors que on est dans une guerre, dans un conflit, on essaye de faire bloc, et on essaye de faire bloc en éliminant, en menaçant même les Polonais qui font des efforts incroyable avec leurs voisins ukrainiens depuis des semaines à les accueillir pour un pays qui était supposé intolérant, raciste, anti-européen. Ils font un accueil
extraordinaire. 1,4 million de réfugiés accueillis dans les familles. Hein.
Avec des orthodoxes, alors qu'ils même sont catholiques, on passe notre temps à nous dire que c'est pas la même... On voit ce que c'est d'être chrétien dans ce moment-là, mais ça n'est pas rien. Et on continue à envisager de sanctionner la Pologne pour d'autres raisons. Et là, c'est la Hongrie qui peut effectivement servir d'intermédiaire. Aujourd'hui, ceux qui servent d'intermédiaire, c'est Erdogan, c'est Vučić, le président serbe, c'est ceux qui, justement, n'ont pas pris une position. Alors que la Hongrie d'Orban, par ailleurs, a pris position contre la Russie dans la guerre. Elle s'est engagée. Donc on sanctionne quelqu'un qui s'est engagé avec nous parce qu'on n'aime pas sa politique, parce qu'on n'aime pas les...
Ça serait l'occasion de créer des ponts.
Il y a un vrai problème de gouvernance de l'Europe. Enfin, c'est pas le sujet du jour, mais il y a un vrai, vrai problème qui, à un moment, il faudra mettre ce dossier sur la table. On ne pourra pas y échapper.
Il y a quand même des gros problèmes de conception de la démocratie. Est-ce qu'on peut s'asseoir complètement sur les problèmes d'évolution, de conception
d'une
démocratie?
Oui,
voilà. Alors c'est la vraie question, c'est ça. Le timing, effectivement, on peut considérer qu'il est malheureux. Clairement, sur la Pologne, les institutions européennes la mettent en veilleuse, parce qu'effectivement, la Pologne fait actuellement le boulot que vous évoquez. De même que dans les négociations avec la Turquie, on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire à la Turquie, parce qu'elle accueille des milliers... des centaines de milliers de migrants venant d'une autre région. Mais ça pose quand même la question, qu'est-ce qui est le plus important pour l'idée européenne? Est-ce que c'est d'avoir une même vision de la démocratie, de la façon dont la parole peut circuler? Est-ce que c'est capital, ou est-ce que c'est le réalisme en temps de guerre?
Eh bien, on va rester sur cette question pour cette première partie du Grand Débat avec Philippe Clancher, Jean-Christophe Buisson et Jean-François Coulon-Désart.
Le Grand Débat.
Le Grand Débat.
Louis Dauphren.
Les candidats ont jeté leur dernière force dans la bataille il y a 3 jours d'un premier tour incertain. 3 jours, c'était donc hier jeudi. L'écart se réduisant de plus en plus entre les deux favoris de la présidentielle, semble-t-il, si l'on écoute les sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour les 12 prétendants à l'Élysée, 2 grands défis s'imposent avant la fin officielle de la campagne, donc vendredi soir à minuit. Ce soir donc, mobiliser leurs partisans alors que l'abstention pourrait approcher ou dépasser le record de 2002, 28,4%. Il faut aller chercher les nombreux indécis qui représentent un tiers des personnes sûres d'aller voter. Donc on ne parle pas des abstentionnistes, on parle simplement des indécis qui représentent un tiers, vous l'avez bien entendu, des personnes sûres d'aller voter. Alors est-ce que les Français ont un trouble de l'élection, Philippe Clancher? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne ferai pas de remarques sur cette
question. Rocco Siffredi ne s'est pas présenté.
C'est évident. Moi-même, je n'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire dimanche. Voilà. Alors que je suis quand même quelqu'un d'informé qui m'intéresse
à... Faites le test du Figaro.
À la chose politique. Voilà. Je n'y avais pas pensé. Merci de cette invitation. Oui, oui, non. C'est, alors évidemment, on va dire que c'est paradoxal parce que l'offre est pléthorique. 12, c'est quand même énorme. Tout le spectre est représenté, tout ça. Mais non, c'est vrai que c'est pas facile. On n'y voit pas clair. Cette campagne, elle est pas emballante. Elle est triste. On n'a pas envie de se mobiliser. Donc je sais pas. Je pense qu'effectivement, il y aura quelques surprises du fait de ces indécis, même si en fait je pense que les indécisions se jouent dans des petites sphères entre des candidats proches. Donc je pense que ce que nous annoncent quand même les sondeurs, on ne devrait pas être très loin de la réalité. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de suspense quant aux deux
quant à l'affiche de 2017 qui va se répéter pour vous.
Moi je pense qu'il n'y aura pas, voilà. Alors après, c'est vrai que cette indécision, c'est à rapporter à grosso modo un désamour du politique, une difficulté aux gens de se sentir concerné, voilà, c'est quand même globalement c'est pas de très très bonnes nouvelles démocratiques, voilà, c'est ça. Alors évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'abstention, mais cette grande indécision là, à quelques jours du scrutin, c'est pas terrible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est raté de la part de notre classe politique dans son ensemble.
Jean-François Coulon-Desart.
Il faut dire que l'Ukraine, c'est vrai, a parasité cette élection. Ça s'est enfoncé une porte verte de dire ça. Quant à l'abstention, on nous agite le drapeau de l'abstention maintenant à longueur de médias télévisés et radiophoniques. C'est très simple. À ce moment-là, si on a la trouille de l'abstention, on a qu'à rendre le vote obligatoire, comme ça se fait dans les pays nordiques. Je vous rappelle que quand même nos aïeux sont fait trouer la peau pour qu'on ait le droit de voter. Donc la moindre des choses, c'est quand même de faire son devoir civique. Donc maintenant, sur cette campagne, là, j'ai reçu les programmes...
Oui, je vois, vous êtes venu avec vos petits papiers.
Je suis venu avec mes programmes. C'est assez surréaliste parce que ça manque un petit peu quand même de souffle, ça manque un petit peu d'ambition, ça manque un petit peu, ce sont vraiment j'ai l'impression d'être dans un catalogue d'une célèbre marque suédoise, quoi, je veux dire, c'est vraiment
mais
ça.
Mais les programmes ne servent à rien, vous le savez bien.
Oui, mais là, c'est difficile à monter, c'est
le seul programme auquel je me réfère, c'est celui de la machine à laver, parce que je sais qu'il va être exécuté.
Voilà, exactement. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, ça manque pour la plupart des candidats, encore une fois, de souffle et d'ambition. Se choisir un
président, est-ce que vous êtes
indécis, choisir un dessin, pas du tout. Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas comme Philippe, déjà.
Pas du tout. Voilà. Non, je sais très bien pour qui je vais voter. Il y a aucun problème là-dessus. Maintenant, sur les sondages, moi, je me souviens quand je dirigeais la chaîne parlementaire à l'Assemblée nationale, j'avais interdit en 2002 les sondages. Ça m'horripilait, je ne m'étais pas trop trompé. Personne n'avait vu venir Le Pen au deuxième tour. Aucun des sondeurs. Donc, il faut s'en méfier. On est dans un truc de sondage perpétuel. Il faut faire attention. C'est une photo qui est valable très peu de temps. Un sondage, très très peu de temps, et encore, il faut savoir comment il est fait. Hein. Donc,
est-ce que Zemmour peut créer la surprise? Je vais poser la question aussi à Jean-Christophe, mais est-ce que Zemmour peut créer la surprise pour vous? Si, justement, on n'a pas vu venir Jean-Marie Le Pen en 2002, est-ce qu'on peut ne pas avoir vu venir Éric Zemmour? Est-ce qu'il y a un vote caché? Beaucoup n'y croient pas, mais je vous pose quand même la question.
Mais un vote caché, oui, Zemmour peut créer la surprise, bien sûr, un vote caché. Je sais pas, qu'est-ce que vont faire les gens qui ont voté pour Ciotti? Ils sont plus proches, me semble-t-il, de Zemmour que de Mme Pécresse. Donc, est-ce que les consignes de parti vont jouer, ou est-ce que leur conscience va l'emporter? Et finalement, ils vont voter Zemmour. Alors, si on parle entre guillemets de vote caché pour Zemmour, il y a une grosse population ici. Pareil aussi côté Marine Le Pen. Les médias ont décidé, l'Élysée a décidé qu'il fallait que ça soit deuxième tour, Marine Le Pen et le président.
Ça, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a cette...
On voulait ça, donc on nous amène vers ça, vers machin, etc. Je pense que l'élection n'est pas jouée, sinon ça sert à rien d'aller voter. Hein.
Jean-Christophe Buisson.
Je crois qu'ils sont amenés un peu tout seuls. Éric Zemmour a fait le choix d'une campagne assez radicale sur des thèmes qu'on connaît, sur l'insécurité, sur l'immigration, qui a d'une certaine manière forcé Marine Le Pen à se recentrer, à dédiaboliser et à faire campagne dès le début sur un sujet faute de pouvoir faire sur les autres, qui était le pouvoir d'achat. Il se trouve qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français, d'où, je pense, son niveau de popularité dans les sondages. Les sondages, le problème des sondages aujourd'hui, je vous rejoins un peu, mais c'est qu'ils désormais ne prennent en compte que les gens qui sont sûrs de leur vote. Donc effectivement, ça ne prend pas en compte le taux d'abstention et ça ne prend pas en compte les indécis. C'est pour ça que moi, je serais un peu plus prudent sur l'idée que les sondages aujourd'hui donne à peu près les finalistes, le classement. Je suis très, très...
Je suis d'accord avec vous.
Et pour revenir sur, ce paradoxe quand même qui est très inquiétant, vous l'avez souligné Philippe, qui est, on a un embarras du choix incroyable, on a 12 candidats si on est de côté des deux trotskistes qui disent à peu près la même chose quand même.
On a le choix de l'embarras surtout.
On a le choix de l'embarras. Et en même temps, il y a beaucoup d'indécisions. Et il y aura encore 20% demain, enfin ce samedi, qui ne sauront pas quoi voter, et encore 15% qui le matin se lèveront en disant pour qui je vais voter, je ne sais pas.
Comment l'expliquez-vous, Christophe ?
Eh bien c'est ça qui est inquiétant. C'est que, alors je l'explique par le fait que personne ne trouve, un candidat qui corresponde exactement à ce qu'il veut, parce qu'il y a une dispersion.
Mais c'était le cas avant aussi, quand il y avait Jacques Chirac,
parce que les réseaux sociaux ont amplifié ça, parce que la mondialisation a amplifié ça, parce que l'individualisation de notre société a amplifié ça. Chacun raisonne dans son petit couloir. Moi, c'est le pouvoir d'achat. Moi, c'est l'Ukraine qui me frappe. Moi, c'est Zemmour qui me fait peur ou Zemmour qui m'enthousiasme, etc., etc. Et donc, quand on est satisfait d'un sujet, on regarde les autres et les autres ne nous satisfont pas parce que personne n'incarne. Et il y a un énorme problème dans cette campagne, c'est le président sortant qui est absent. Qui refuse de faire des émissions télé.
Ça va le servir ou le desservir ?
Qui refuse le mercredi, s'il y a débat, certains journalistes qui ne lui plaisent pas. Mais dans quel pays sommes-nous ? Où le président de la République et les autres candidats, d'ailleurs, parce que je crois que Marine Le Pen ne veut pas non plus, pour la citer Anne-Sophie Lapi, c'est incroyable. Depuis quand les candidats décident quels journalistes sont les amis ? Depuis quand un candidat qui est en campagne refuse de participer à une émission du service public ?
C'est ça. Et oui, mais ça, il fait un calcul, il se dit, et je vous pose la question à tous les trois, il fait un calcul pour se dire,
ça a faussé cette campagne.
Ça c'est certain. Bah, ouais, mais est-ce qu'il se dit, finalement, ça me dessert d'aller dans les médias, et ça me sert de garder le silence,
évidemment.
Ou de ne pas jouer le jeu de la campagne. Ça veut dire qu'une campagne, en fait, dessert le président sortant mécaniquement.
Oui,
parce qu'il va devoir rendre
C'est aussi la stratégie de Mme Le Pen depuis, depuis des années. C'est-à-dire que moins elle parle, et plus elle reste dans l'idée qu'on se fait d'elle, elle ne prend pas de risques et tout ça. Et je crois effectivement que le président sortant, c'est peut-être cynique, mais il a raison. Ça ne le dessert pas tant que ça. Il ne veut pas entrer dans l'arène. Je pense qu'il se considère lui-même comme très supérieur à ses rivaux. À mon avis, je pense qu'intellectuellement et en termes de sens politique, il est très supérieur à ses rivaux. Et c'est sans doute ça. C'est, voilà. Et donc, il n'a pas envie, de redescendre. Il ne se sent pas obligé de discuter. Et puis, il utilise le calendrier, le funeste calendrier qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette situation de guerre en Europe. La petite entourloupe de sa responsabilité de la présidence tendance européenne, effectivement, mais ça, on l'a dit mille fois que, logiquement, il aurait dû passer son tour et être plus tranquille et mettre la France dans une situation plus facile. Bon, ça, on l'a dit mille fois, mais moi, je comprends tout à fait sa stratégie. Et ici, autour de ce micro, on peut dire que c'est antidémocratique et tout ça. Mmh. C'est lui qui a quand même globalement les cartes en main. Et voilà.
Ça peut se retourner contre lui.
Oui, mais donc le président refuse d'éclairer les gueux que nous sommes. C'est ce que vous êtes en train de dire, quoi. Donc moi, j'attends avec impatience, le nouveau livre, j'espère qu'il y en aura un nouveau, de Patrick Rambeau sur la satire du règne d'Emmanuel Ier. Il a fait ça déjà avec Sarkozy, avec Hollande, c'est absolument formidable. C'est le Saint-Simon de notre siècle.
Pourquoi Nicolas Sarkozy garde-t-il le silence ?
Ah, il va le garder jusqu'à un certain point, je pense.
Combien de divisions, Sarkozy, maintenant ?
Non, mais est-ce qu'il va...
Si, je pense qu'il a... tout dépend du score que fera Valérie Pécresse au premier tour, parce que vous avez parlé de calendrier, funeste, et il y a un autre calendrier funeste qui est de faire coïncider la présidentielle avec législative. C'est-à-dire que je pense qu'on se prépare quelques soirées dans des états-majors des grands partis traditionnels, assez agités selon le résultat du premier tour. Et là, peut-être qu'un Nicolas Sarkozy sortira du bois, peut-être qu'un Nicolas Sarkozy annoncera que la situation est tellement grave qu'il faut se rallier Emmanuel Macron et qu'un certain nombre de députés sont invités à le faire dans la perspective des législatives pour aider Emmanuel Macron, qui n'aurait peut-être pas une majorité aussi facile qu'il y a 5 ans. Tout peut arriver. Ce qui peut surtout arriver, c'est que la gauche, le grand parti de gauche traditionnel, qui est le Parti Socialiste, et le grand parti de droite traditionnel, qui est les LR, ex-UMP, etc., explose totalement après le premier tour. Parce que, d'ailleurs, on voit bien l'interview qu'a donné Emmanuel Macron dans le Figaro hier. J'invite tout le monde à venir dans mon auberge, des sociaux-démocrates jusqu'aux libéraux conservateurs. Donc, grosso modo, du PS jusqu'au centre droit ou l'aile centriste des LR. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce qu'ils vont chez Zemmour? Est-ce qu'ils vont chez Le Pen? Est-ce qu'ils recréent un parti? Que font Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Bruno Retailleau le soir du premier tour si Valérie Pécresse fait à peine 10%? Il y a vraiment, pour le coup, ça va être passionnant. Après, entre la présidentielle législative,
vous avez raison, je
pense que ça va être absolument passionnant.
Est-ce qu'on peut attribuer la non-campagne de Valérie Pécresse au fait qu'elle escompte quelque chose?
Elle a fait une campagne.
Je ne fais que répercuter ce que j'entends aussi. Elle a fait une mauvaise campagne.
Sauf que c'est pas une chose.
C'est pas une oratrice.
Et encore, entre les deux meetings,
elle a fait quelques progrès.
Souvenez-vous, Éric Zemmour, lorsqu'il a fait cette convention de la droite, c'était un orateur, mais pitoyable, pathétique. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu.
Il s'est révélé à Villepin d'une façon incroyable.
Et Valérie Pécresse, elle, en trois mois, enfin même pas en trois mois, en un mois, est passée d'un discours tragique à vraiment une oratrice qui... C'est dommage qu'elle ait...
Alors, pour elle, je pose la question différemment. La droite Fillon, les bataillons catholiques, 65% des catholiques votent plutôt à droite, mais c'est vrai que c'est difficile d'évaluer les choses dans la mesure où Emmanuel Macron...
Et la droite va d'Emmanuel Macron à Zemmour.
Exactement, c'est ça le problème. Donc on a... D'ailleurs, on verra ce qu'on fait du total droite et du total gauche le soir du premier tour. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire les calculs.
Ben, on ne pourra pas, puisque Macron, on le met à droite et à gauche.
Exactement. Comment fait-on, là? Comment fait-on, Philippe Clancher, Jean-François Coulon-Désart, et en particulier pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron est le candidat de la droite, puisque François Fillon avait appelé à voter pour lui, est-ce que mécaniquement, ils vont aller vers lui? Est-ce que Valérie Pécresse a des chances de faire monter son score?
Alors, ce qui est sûr, c'est que lui, le président, il se place carrément à droite. C'est-à-dire, il va falloir arrêter le mirage du ni droite ni gauche.
Pour vous, c'est clair.
Il y a 5 ans. Bah oui, il s'est positionné très clairement.
Les sujets sociétaux, il n'est pas vraiment de droite.
On sait d'où viennent ses soutiens. Moi, ce qui m'étonne, quand j'ai vu tous les panneaux qui se sont affichés à côté de chez moi, j'ai regardé les affiches et j'ai essayé de voir quelles étaient les mentions. Et je me suis rendu compte que aucun candidat de droite ne mettait le parti qui le soutient. Aucun. Bon, on peut dire qu'il y en a un qui peut avoir une excuse parce que son parti est tout neuf, mais les autres ne le mettaient pas, alors que les candidats de gauche continuent à l'indiquer, soit vraiment sur l'affiche comme les candidats communistes et trotskistes, soit en plus petit pour Madame Hidalgo. Mais enfin voilà. Donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui on fait campagne, à droite notamment, en ayant honte de son parti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors je sais bien que la présidentielle, c'est la rencontre entre une personne et la France et tout ça, mais ça veut dire que le parti, on en a honte, on ne l'indique pas, sachant que les grands partis vont très mal, les Républicains, ça va mal.
Mais y a-t-il encore des grands partis,
ça va. La République En Marche, c'est un parti qui n'a jamais existé, donc il n'ira pas mieux demain. Donc ça pose question, sachant que le deuxième enjeu dans lequel il faut quand même déjà penser, c'est les législatives. Parce que les législatives, là, on va voter pour un parti, on va voter pour un mouvement. Donc comment les Français qui ne veulent plus des partis, comment les hommes politiques qui n'assument plus le fait qu'ils sont dans un parti, vont pouvoir, dans un mois, se retrouver pour faire des campagnes au sein d'un parti, avec des élus locaux, pour faire des majorités qui se retrouvent quand même autour de cette...
Alors exactement, c'est ma question.
C'est un vrai problème pour
demain. Emmanuel Macron propose une majorité élargie, qui héberge, comme vous l'avez dit, Jean-Christophe Buisson, c'est mon auberge, venez chez moi, Valérie Pécresse, qui va très très loin, et qui propose... on sait que, évidemment, quantité de Républicains ont rejoint la majorité d'Emmanuel Macron. Comment justement faire campagne après sur ses propres couleurs, si jamais on entre dans une majorité présidentielle élargie? Est-ce que ça va poser des cas de conscience, c'est des cas de calcul politique? Jean-François Coulon-Désart.
Vous avez un parti en trompe-l'œil, celui du président, puis vous avez des partis moribonds. Donc quand on a dit ça, on a résumé, me semble-t-il, la situation. Non, ce qui va être intéressant, c'est à gauche, si le parti... Alors c'est de l'image, mais si le parti communiste et si les Verts font un score plus important que le parti socialiste, ça va être intéressant. Parce que la recomposition ne va pas se passer de la même façon. Non, c'est la mort des grands partis tels qu'on l'a connu. Macron aura réussi ça, au moins, il a commencé il y a 5 ans à dynamiter tout ça. Alors maintenant, bon, on va avoir un champ de ruines, on va reconstruire. On va construire quel sera l'aspect de la maison, je n'en sais rien.
Le sujet, qui est d'ailleurs le sujet qui va être dans l'entre-deux-tours, si on part du principe que, compte tenu des dynamiques, même si on ne croit pas forcément totalement les sondages, c'est qu'il y aura un duel Macron-Le Pen, et avec une Le Pen qui est dans la possibilité de gagner l'élection présidentielle. C'est quand même ça le sujet, il me semble, en ce moment, et ça sera le sujet après. C'est-à-dire que si Marine Le Pen ne gagne pas, mais fait un score bien meilleur que celui qui a 5 ans, il y aura quelque chose qui se passera le lendemain du second tour, qui est, il y a eu un danger de voir l'extrême droite au pouvoir en France, donc les législatives seront hantées par cette idée-là, hantées par l'idée de front républicain contre ce danger. Il y aura une dynamique, Le Pen, surtout si Zemmour la rallie, même si tout... Après, c'est pas mécanique, c'est-à-dire c'est pas parce que Zemmour, par exemple, appelle à voter Marine Le Pen, que certains électeurs de Zemmour refuseront d'aller, etc., et que par ailleurs, des gens refuseront de suivre Zemmour. Donc elle fera pas le plein des voix Zemmour. Mais elle a quand même une sacrée réserve de voix, contrairement à Macron. C'est ça qui fait que, à mon avis, au second tour, ça peut être beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans, voire dans un autre sens. En tout cas, il y aura cette thématique-là dans les législatives, c'est Front républicain. Et donc Front républicain, c'est la palme, ça sera la palme au sortant. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de gens de droite et de gauche se mettront ensemble contre le candidat d'extrême droite, Zemmourau, le péniste, susceptible de gagner, voire LRiste. Et l'Assemblée ressemblera à une Assemblée avec qui est la même qu'aujourd'hui.
Oui, parce qu'on peut,
On fera barrage à l'extrême droite. Oui, et donc tout est figé, tout est gelé.
Et on reviendra à une configuration finalement connue.
Ben oui, j'en ai bien peur. Enfin, j'en ai bien peur.
Philippe Clanchet. Un président de la République peut être un homme quasiment seul avec une petite équipe. On peut conquérir le pouvoir en France si on est brillant et si on a de la chance, qui sont les deux qualités que
sont. Surtout si on aime Napoléon Bonaparte.
Emmanuel Macron. Donc, voilà. Si on a une bonne culture politique. Bon, voilà. Par contre, gagner une élection législative, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut des élus locaux. Et l'extrême droite, depuis des années, se heurte à cette difficulté-là d'avoir des gens crédibles sur le terrain. Le macronisme, on a vu que ça n'a pas fonctionné, même s'ils ont récupéré quelques éléments formés à gauche et à droite, c'est globalement un échec au niveau de cette législature. Donc effectivement, ce que vous disiez, c'est que là, on va se retrouver avec la prime aux gens qui sont connus, aux gens qui rassurent, cette prime-là qui a permis que les dernières municipales, par exemple, soient gagnées par des partis,
je suis très installé.
Je suis d'accord. Oui, mais des partis moribonds. On peut être un parti moribond et remporter des élections. C'est ce qui s'est passé lors des élections locales. C'est pas simple. C'est pas simple de comprendre cette situation-là. Mais je crois que Emmanuel Macron a parfaitement compris ce qu'il voulait faire, ce qu'il pouvait faire. Il maîtrise tout ça. Et il a les cartes en main quand même.
Mais les médias ont aussi à battre un peu leur coule parce que extrême droite, moi je veux bien, mais les mots ont quand même un sens et un poids. On attaque ces émotions d'extrême droite, il reprend finalement le programme du RPR de 95. On n'a jamais tapé et taxé les gens du RPR d'extrême droite. Il faut peut-être un peu se calmer. J'ai en mémoire, je ne sais pas pourquoi, l'intervention de Larcher, le président du Sénat, qui disait que Éric Zemmour était un vilain monsieur d'extrême droite, etc. Et il finissait son interview avec cette phrase, il a un mérite, c'est d'avoir mis sur la table ce qu'on a mis sous le tapis pendant 30 ans. Tout est dit, je veux dire, tout est dit.
C'est ce qu'on disait avec le Chirac de Fachon dans les années 70, donc pas nouveau.
Oui, donc c'est pas nouveau,
c'est relatif,
faire un petit peu attention je veux dire, au poids des mots. Quoi, je veux dire.
Enfin, le programme de la droite républicaine il y a 10 ans, c'était pas dire que les deux problèmes de la France, c'est petit 1 l'immigration et petit 2 l'immigration. On peut quand même pas faire un parallèle parfait entre le RPR qu'on a connu...
Que les problèmes liés à l'immigration se sont amplifiés depuis le RPR quand même.
Peut-être que la situation est différente, mais enfin, on peut pas dire que le positionnement politique, que l'offre politique est la même. On ne vote pas les gens qui vont voter pour les candidats d'extrême droite ne vont pas voter pour les mêmes raisons que les gens qui pendant 30 ans ont voté pour la droite classique libérale sur une vision de la société, une vision de l'économie et tout ça qui n'existe pas.
Alors comment expliquez-vous que tant d'électeurs LR, voire mélenchonistes, voire de gauche soit susceptible de voter Zemmour.
Parce que le caractère tribunicien du personnage fonctionne et que quand il faut voter pour un homme, c'est-à-dire à la présidentielle, quelqu'un qui s'exprime bien, qui arrive à sortir les ressorts un petit peu du fond du cœur, ça peut fonctionner.
C'est la forme, Philippe, et pas le caractère nouveau.
Peut-être qu'on peut considérer, mais alors peut-être que là c'est la responsabilité média de donner l'impression que Zemmour ne parle que d'immigration. Moi je l'ai suivi un peu en campagne, il ne parle pas que d'immigration. Pour le coup, il parle d'autres sujets, mais effectivement, on met plutôt le curseur là-dessus. Et je pense que c'est pas seulement son côté tribunicien ou cultivé qui fait la différence, c'est qu'il aborde ce sujet de front avec des propositions qui peuvent paraître tout à fait extrémistes, certes, mais qui touchent des gens qui sont frappés par les problèmes dont ils parlent et dont ils ont l'impression que les autres n'en parle pas ou n'en parle pas assez. Donc il a quand même mis le doigt. Il est entré en campagne pour ça. Il n'est pas entré en campagne pour être président de la République. Éric Zemmour, il n'est pas fou. Moi, je l'ai côtoyé au Figaro. Il n'en est pas à ce point-là. Il est arrivé pour dire, je veux que certains thèmes ne soient pas mis sous le tapis et soient présents dans cette campagne Par ailleurs, je veux que la droite redevienne la droite. Mais, et tous ces sujets-là ont touché des gens, et pas seulement sur le thème de l'immigration, c'est de dire, mais la droite, c'est censuré, c'est auto-censuré, refuse d'aborder de front certains sujets. Sarkozy a échoué là-dessus, il s'est passé présent dans le logiciel de droite de Valérie Pécresse. C'est ça qu'il a représenté dans cette campagne, plus que l'idée qui préside aux destinées de la France. Et ça, je pense que ça a touché vraiment beaucoup de gens, et pas seulement par son caractère un peu atypique.
Ça reste effectivement l'imprévu, l'inconnu quand même de cette campagne. On a bien saisi. Il y aurait d'autres réflexions à partager ensemble. Malheureusement, on n'a plus le temps. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, finalement, est-ce que parler, c'est cliver? Est-ce que plus on parle, plus on clive la société, si chacun vit dans des bulles, et plus on a intérêt à prendre de la distance et à ne pas faire campagne pour rester haut dans les sondages? C'est peut-être un effet pervers, en tout cas, des réseaux sociaux et de la manière dont on fait de la politique aujourd'hui. Reste à voir comment les choses peuvent être encore analysées de ce point de vue-là. En tout cas, lundi matin, on sera présent pour commenter tout cela dans les matinales de la radio auxquelles vous êtes fidèles. Merci beaucoup à Jean-Christophe Buisson, à Jean-François Coulon-Desart et à Philippe Planchet d'être venu dans ce grand débat. Je vous souhaite une bonne journée.